Les adieux de Paul à l'assemblée d'Éphèse. Bien des traits intéressants de la vie de l'apôtre Paul nous sont encore rapportés dans le livre des Actes. Mais ce n'est pas son histoire que nous avons à suivre, c'est celle de l'assemblée de Dieu que, comme évangéliste et missionnaire, il contribua si puissamment à établir et dont il fut serviteur pour l'édifier. Nous ne parlerons donc de Paul qu'en ce qui concerne l'assemblée que lui-même avait tant à cœur. Après avoir quitté la Troade, l'apôtre et ses compagnons se rendirent à Milet, ville de l'Asie mineure, à quelque distance au sud d'Éphèse. Il fit venir là les anciens de l'assemblée de cette dernière ville pour leur faire ses adieux. Et nous pouvons bien dire que les paroles qu'il leur adressa, comme derniers avertissements, sont pour toute l'assemblée de Dieu jusqu'à la fin. Combien le Seigneur est bon de les avoir donnés par son cher serviteur qui avait tellement à cœur la gloire de son Maître, le bien de l'assemblée et le salut des pécheurs. Paul avait le sentiment que son service comme évangéliste et missionnaire était à son terme. « Je m'en vais à Jérusalem, disait-il aux anciens d'Éphèse, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit-Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Et c'est ce qu'il trouva à Jérusalem. Mis en prison par suite de la haine des Juifs, puis envoyé à Césarée au gouverneur romain, après plus de 2 ans de captivité, il fut enfin conduit à Rome pour y paraître devant l'empereur. Il rendit ainsi témoignage à Christ devant les grands de la terre, mais c'était dans les liens. Des âmes furent sauvées par son ministère, tandis qu'il était en prison, témoin l'esclave Onésime. Mais ce n'était plus aller de lieu en lieu annoncer l'Évangile et établir des assemblées. L'assemblée de Dieu était fondée sur la terre, en grande partie par son travail, et elle n'avait plus qu'à croître. Ensuite, Paul ajoutait, « Je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. » De cette captivité au-devant de laquelle il marchait, il ne le verrait pas revenir. Il avait dit précédemment, « Il faut aussi que je voie Rome », mais ce fut comme prisonnier qu'il alla dans cette grande ville. Mais il ne se mettait en peine de rien, il ne faisait aucun cas de sa vie, pourvu qu'il achevât avec joie et sa course et le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus. Il aimait Christ, le Fils de Dieu, qui s'était donné pour lui. Tout ce qu'il désirait, c'était de le servir jusqu'à la fin. Oh, que nous fussions animés du même esprit que Paul. Sachant donc qu'il ne les verrait plus, il avait à cœur de presser les anciens, surveillants du troupeau, établis pour cela par l'Esprit-Saint, de prendre soin de l'assemblée de Dieu. Combien elle est précieuse aux yeux de Dieu, cette assemblée. Paul le faisait ressortir en disant, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Dieu voulait avoir sur la terre une assemblée qui lui appartint en propre, tirée du monde, formée pour le ciel. Mais pour cela, il fallait que ceux qui la composent fussent lavés de leurs péchés. Et son propre Fils s'est offert pour accomplir cette œuvre, en souffrant et mourant sur la croix. Il nous a lavés de nos péchés dans son sang. Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Apocalypse 1, verset 5, Éphésiens 5, 25. Combien cela est beau! C'est cette assemblée que Christ se présentera un jour à lui-même, dans le ciel, glorieuse, sans tache ni ride, pour être avec lui éternellement. Mais en attendant, elle chemine sur la terre, entourée d'ennemis et de dangers, comme quelqu'un qui traverse une sombre forêt où des brigands rôdent et où des bêtes féroces cherchent leur proie. L'apôtre avait soigneusement veillé sur l'assemblée, mais il allait partir, être mis en prison, bientôt quitter ce monde, et il voyait les dangers que courait cette assemblée si chère à son cœur. « Je sais, dit-il aux anciens, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Il y aurait des ennemis venant du dehors et des ennemis surgis au-dedans. Et c'est ce qui eut lieu. Il ne fallut pas longtemps après le départ de Paul pour que s'introduisissent dans l'Église des faux docteurs qui la ruinèrent. Qu'y avait-il à faire? L'apôtre recommande aux surveillants de veiller comme lui-même n'avait cessé de le faire. Mais hélas, ils s'endormirent ou furent gagnés par le mal, et la conséquence fut que les loups ravagèrent le troupeau et que les mauvaises doctrines prévalurent dans l'assemblée. Elle fut ruinée. C'est ce que sa triste histoire nous apprend. Que restait-il donc? L'apôtre le dit et nous montre la ressource qui ne peut manquer et qui est pour tous les temps, c'est Dieu et sa parole. Je vous recommande, dit Paul, à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Et maintenant que l'assemblée sur la terre est ruinée, divisée, déchirée, c'est ce qui nous reste, Dieu et sa parole, suffisant pour nous rassembler, nous édifier, nous inspirer jusqu'au bout. Que Dieu est grand et bon. Quand, par la faute de l'homme, tout manque, lui se présente et dit « Me voici, comptez sur moi, attachez-vous à moi seul, voici ma parole, suivez-la. » Paul, après ces exhortations et bien d'autres que nous ne mentionnons pas, parce qu'elles ne se rapportent pas aussi directement à l'assemblée, se mit à genoux et pria avec eux tous, les recommandant à son Dieu. On peut s'imaginer la douleur qui remplissait leur cœur. Tous versaient beaucoup de larmes à la pensée que c'était la dernière fois qu'ils voyaient l'apôtre bien-aimé, qui, à travers tant de peines, de travaux et de périls, leur avait apporté l'évangile de la grâce de Dieu. C'est une chose agréable au Seigneur que nous aimions ses chers serviteurs. Paul recommandait aux Thessaloniciens de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13.
Or nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.
Et cette exhortation nous regarde aussi. Les amis de Paul étaient affligés, surtout parce qu'ils n'avaient plus l'espérance de le revoir sur cette terre. Le Seigneur ne nous défend pas de pleurer lorsque nous quittons ceux que nous aimons, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un lieu de rendez-vous pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. C'est le ciel, la maison de son Père. Les anciens d'Éphèse et tous ceux qui ont été convertis par le moyen de Paul ont été le rejoindre dans le paradis. Ils sont là, en attendant la résurrection glorieuse. Serons-nous avec Paul et tous les saints quand Jésus reviendra? Paul n'oublia pas ses chers amis d'Éphèse. Plus tard, à Césarée, prisonnier pour le Seigneur, il leur écrivit du fond de sa prison une lettre où se trouvent, pour notre instruction, les grandes et précieuses vérités relatives à l'Assemblée. Nous ne pouvons les présenter en détail, mais nous en dirons cependant quelques mots. Comme il l'avait fait dans l'Épître aux Corinthiens, il enseigne aux Éphésiens que l'Assemblée, composée de tous les vrais croyants, depuis la descente du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement des saints, est un corps dont Christ est la tête. Cela veut dire que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et sont sauvés, lui sont unis et sont unis les uns aux autres par le Saint-Esprit, aussi étroitement que les membres d'un corps humain sont unis à la tête et les uns aux autres et forment ainsi un tout. N'est-ce pas une belle et précieuse vérité? Par l'Esprit Saint, c'est la vie même de Christ qui coule en nous d'en haut, de même que la vie circule de notre tête dans tous nos membres. Une note en bas de page. À quelque instant que ce soit sur la terre, l'ensemble des croyants est le corps dont Christ est la tête. C'est le point de vue de 1 Corinthiens 12. Au premier chapitre des Éphésiens, c'est l'ensemble de tous les croyants dans la gloire. Reprise de l'esquisse. Paul montre aussi que, dans l'assemblée, il n'y a plus de distinction de nationalité. Les Juifs n'y sont plus un peuple privilégié. Ils sont sur un même pied que les nations, ayant besoin de la même grâce et du même Sauveur. Mais c'était un mystère que les prophètes et les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas connu. Il a été révélé par Paul, auquel Dieu l'a fait connaître. Ensuite, l'apôtre enseigne que l'assemblée est l'habitation de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. Avez-vous jamais pensé que Dieu eût une demeure ici-bas, non pas faite de pierres matérielles, mais composée de ceux qui appartiennent à Christ? C'est une demeure plus belle aux yeux de Dieu que le temple de Salomon dans toute sa splendeur. Chacun des vrais croyants est une des pierres de ce merveilleux édifice. Et puis, nous apprenons que cette assemblée, Christ l'a aimée et s'est livré pour elle et veut se la présenter pure, sans tache et glorieuse. Où sera-ce? Dans le ciel, lorsque seront célébrées les noces de l'agneau avec l'assemblée, son épouse. Alors, tous les habitants du ciel s'écrieront « Alléluia ! Réjouissons-nous et tressaillons de joie. Bienheureux ceux qui auront part à cette fête glorieuse. » En attendant ce moment, Christ purifie l'assemblée, il la soigne, la nourrit et la chérit. Enfin, l'apôtre exhorte les Éphésiens et tous les croyants avec eux à mener une vie sainte comme imitateurs de Dieu et ses bien-aimés enfants, et comme scellés par l'Esprit Saint qui est en eux, et qu'il ne faut pas attrister. Puis il leur recommande de revêtir toute l'armure de Dieu pour résister au diable. Que Dieu nous donne, en lisant cette épître, de saisir les grandes et précieuses vérités qu'elle renferme, et de les réaliser dans notre cœur et notre vie.